OK, on va commencer notre 36e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Aujourd'hui, on va regarder le calvinisme et pourquoi 5 points. Alors, la sotériologie, ou la doctrine du salut, a été grandement corrigée et mieux formulée par les pré-réformateurs, donc Jean Hus, John Wycliffe et d'autres, et aussi les réformateurs, Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, John Knox. Alors, des principes fondamentaux furent établis, les fameux 5 solas de la Réforme. Sola scriptura, donc on se doit d'établir les doctrines à partir des Écritures seules. Sola fide, donc aussi la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Solus Christus, par Christ seul. Et soli dea, deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Alors les réformateurs virent la nécessité de conserver par écrit leurs convictions dans les confessions de foi et dans les catéchismes. La vérité est toujours combattue par les ennemis de l'Évangile. Aussi, un conflit théologique vit le jour en Hollande qui fut à la fois religieux et politique. Ce conflit eut pour leader le pasteur Jacob Arminius d'Amsterdam en Hollande. Il s'était engagé à soutenir et à prêcher les doctrines énoncées dans la Confession de foi de Belgique et le Catéchisme d'Heidelberg. Alors, c'était des documents qui définissaient l'expression officielle des positions doctrinales des Églises réformées de Hollande. Mais il revisa ses engagements et il fut l'initiateur d'une grande controverse religieuse. Alors, le premier point de notre leçon d'aujourd'hui qu'on va regarder, la sainte doctrine qui est remise en question. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les saintes Écritures nous rappellent que cette chose-là arrivera dans Actes 20, les versets 26 à 31. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors, on va regarder un petit peu qui était ce pasteur-là, Jacob Arminius, qui a vécu entre 1560 et 1609. Il est venu au monde en 1560, il est mort le 19 octobre 1609. Alors, Jacob Arminius, c'est un nom latinisé de Jacob Harmens ou Jacob Harmensen, qui était un théologien protestant néerlandais. Il fut ministre de l'Église réformée hollandaise qui était reconnue par l'État. Il a été pasteur à Amsterdam de 1588 à 1603 et professeur de théologie à l'Université de Leiden de 1603 à 1609. Alors, sous son leadership, se développa une grande controverse. Alors, on va parler de ses adeptes. Alors, ses adeptes, c'est ceux qui l'ont suivi. Ils ont continué la controverse jusqu'en 1618. Vers cette date, la controverse s'est aggravée et est devenue politique. Alors, quelles étaient les choses qu'il enseignait? Alors, son enseignement fut formulé en 1610 sous forme d'un document officiel dans lequel les adeptes d'Arminius énonçait les 5 articles de foi touchant la sotériologie, donc la doctrine du salut, et fut connu sous le nom des 5 remontrances. Le but du document était de faire accepter leur point de vue par leur pays. Alors, les 5 remontrances incarnaient un système de pensée découlant de l'adoption intellectuelle de 2 principes philosophiques basés sur la raison. Le premier principe, c'est celui que la souveraineté de Dieu est incompatible, selon eux, avec les deux notions de la liberté humaine et de la responsabilité humaine. Et le deuxième principe, c'était que la capacité limite l'obligation. Autrement dit, les Écritures nous disent qu'on n'est pas capable de venir au Seigneur. Alors ils disent que notre capacité, ça limite l'obligation. Si on n'est pas capable de le faire, c'est que ça nous oblige pas. Ça, c'est les deux principes de base sur lesquels tout repose tout leur système. Alors, l'acceptation de ces deux principes entraîne l'acceptation de deux déductions, également basées sur la raison. La première déduction, la foi étant un acte libre et responsable, il est impossible qu'elle soit causée par Dieu. Alors, c'est vraiment un principe fondamental. Eux, ils croient que la foi, c'est toi qui l'initie, c'est toi qui... Et le deuxième, c'est que la foi étant exigée de Dieu, la capacité de croire doit être universelle. Alors, ils se disent, si Dieu dit de croire, c'est parce que tout le monde est capable de croire. Alors, ça, c'est les principes de base. Après ça, ils ont tout établi un système à partir de ça. Alors, ces déductions les amènent à interpréter les Écritures comme enseignant les positions suivantes. Premièrement, que l'homme n'est pas corrompu par le péché au point qu'il ne puisse pas croire à l'Évangile, à salut, lorsqu'il est mis devant lui. Le deuxième, que l'homme n'est jamais complètement contrôlé par Dieu et qu'il peut rejeter l'Évangile, autrement dit, il peut résister à Dieu. Et Dieu, selon eux, peut tenter de convertir un homme et faillir. Troisième point, ils disent que l'élection de Dieu est motivée par le fait que Dieu voyait à l'avance que tel homme se repentirait et croirait de son propre arbitre. Quatrième, c'est que la mort de Christ n'assure véritablement le salut d'aucun homme en particulier, mais rend seulement possible à tous les hommes d'être sauvés. Et le cinquième point, c'est qu'un chrétien pouvait à nouveau se perdre après avoir été antérieurement sauvé. Alors, déjà, la perte du salut s'introduisait dans la doctrine. Alors, ces positions les amenèrent à adopter la conclusion suivante. Le salut de l'homme dépend ultimement de lui-même et que la foi qui sauve est perçue comme son propre œuvre, comme son œuvre propre et non celle donnée par Dieu. Alors, bien entendu, leur position, ils l'ont revendiquée, les cinq remontrances avaient pour but de faire changer l'enseignement officiellement accepté par toutes les églises réformées de la Hollande. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est que la saine doctrine est réexaminée. Alors, les leaders religieux orthodoxes réagirent et organisèrent un synode. Donc, un synode, c'est une convocation de pasteurs et de théologiens pour examiner la question et formuler une position officielle et commune. Cette assemblée fut connue sous le nom de le Synode national des Églises réformées des Pays-Bas, à Dordrecht. Le synode eut lieu du 13 novembre 1618 au 9 mai 1619, donc ça a duré 7 mois. Les participants venaient de toute l'Europe et comprenaient 84 membres et 18 commissionnaires séculiers. Donc, les commissionnaires séculiers, c'est des gens qui n'appartenaient pas nécessairement à des églises, mais qui avaient été nommés quelque part pour être des observateurs. Les 84, c'était les 84 qui faisaient le développement de la doctrine. Alors, ils examinèrent les cinq remontrances pendant 154 sessions d'études et ils rejetèrent unanimement ces enseignements. Ils déclarèrent ces enseignements comme hérétiques et irréconciliables avec les enseignements des Écritures. Alors, le synode s'est conclu sur le rejet des positions arminiennes. La doctrine réformée sur chacun des cinq points en discussion fut présentée, à savoir la dépravation totale, l'élection sans condition, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Ceux-ci sont parfois appelés les cinq points du calvinisme. Alors, je vous ai trouvé une image sur Internet pour montrer la réunion là, où ça se tenait et où ils ont fait leur délibération pendant 154 sessions. Alors, le troisième point qu'on va regarder, c'est que la saine doctrine réaffirmée. Alors, la décision du synode de Dort ou de Dordrecht concernant les cinq points principaux de la doctrine en débat aux Pays-Bas, généralement connue sous le nom de canon de Dordrecht. Alors, les canons de Dordrecht, c'est l'ensemble des positions que tout ce monde-là ont pris face à ce que Arminius enseignait, et ils ont pris point par point. C'est pour ça qu'on dit pourquoi cinq points, c'est parce qu'il y avait les cinq remontrances, donc ils ont pris chacun des points qu'eux avançaient, et ils ont démontré la fausseté de ça avec des écritures, et ils ont pris une position officielle dans un document qui s'appelle les canons de Dordrecht. Ça existe encore aujourd'hui dans toutes les langues. Donc c'est l'explication de la décision juridique du synode. Dans sa préface originale, on appelle la décision un jugement dans lequel les deux vues, la vraie, celle en accord avec la parole divine concernant les cinq points sumentionnés de doctrine, est expliquée, et la fausse, la vue fausse, en opposition à la parole divine, est rejetée. Alors, les canons n'ont pas été prévus pour être une explication complète de la doctrine réformée, mais seulement un exposé des cinq points de doctrine en débat. Alors, on dit qu'elle a été reformulée. Alors, la décision finale fut que le salut est une œuvre de grâce du début à la fin et qu'en aucun sens le pécheur ne se sauve lui-même ou même contribue à son salut. La chute d'Adam a complètement ruiné la race humaine et les hommes sont spirituellement morts, esclaves du péché et de Satan. La capacité de croire à l'Évangile est elle-même un don de Dieu. Cette grâce n'est donnée qu'à ceux que Dieu le Père a choisis de toute éternité et à eux seulement. C'est Dieu qui détermine souverainement quels hommes seraient l'objet de sa miséricorde et de son salut. Alors, ce que j'ai fait, j'ai voulu préparer un tableau qui prend les cinq points et qui met en parallèle les positions des Arméniens et les positions du calvinisme, ou autrement dit du synode de Dort. Alors, pour mieux comprendre, mieux apprécier les différences, quand on les a côte à côte, on voit vraiment beaucoup mieux. Alors, on va regarder sur le côté gauche du tableau, j'ai mis les cinq points de l'arminianisme. Sur le côté droit, j'ai mis les cinq points du calvinisme. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder le point 1, qui est le libre arbitre ou la capacité de l'homme à croire, ou qu'on appelle total depravity en anglais. Donc, on va lire les cinq points de l'arminianisme sur le total depravity, autrement dit, et ensuite, on va voir comment eux ils ont décidé quelle était la position officielle du groupe du synode de Dort. Alors, eux disent, quoique la nature humaine ait été sérieusement affectée par la chute, l'homme n'a pas été laissé dans un état de faiblesse spirituelle totale. Ils affirment que Dieu, dans sa miséricorde, rend chaque pécheur capable de se repentir et de croire, mais il le fait de manière à ne pas s'interposer dans la liberté de l'homme. Ils affirment également que chaque pécheur possède une volonté libre et sa destinée éternelle dépend de l'usage qu'il en fait. Ils affirment aussi que la liberté de l'homme consiste dans sa capacité de choisir le bien au lieu du mal dans les choses spirituelles et que sa volonté n'est pas asservie à sa nature pécheresse. Alors, selon eux, le pécheur a le pouvoir soit de coopérer avec l'Esprit de Dieu et être régénéré, soit de résister à la grâce de Dieu et périr. Ils enseignent également que le pécheur perdu a besoin de l'assistance de l'Esprit, mais n'a pas besoin d'être régénéré par l'Esprit avant de pouvoir croire, car la foi, selon eux, est un acte de l'homme et elle précède la nouvelle naissance. Alors la foi, selon eux, est le don du pécheur à Dieu. C'est la contribution, selon eux, de l'homme au salut. Alors ça, c'est leur position officielle. Et on voit qu'il y a des choses qui ont été enseignées en 1600. On est rendu en 2000, ça fait 400 ans, ça marche encore. Alors s'il y a eu une influence plus que plus qu'importante, on pourrait dire. Le deuxième, on va regarder la deuxième colonne, donc le total depravity ou la dépravation totale de l'homme selon les décisions du synode de Dort. Alors, eux, ils affirment par suite de la chute, l'homme par lui-même est incapable de croire à l'Évangile pour son salut. Ils affirment aussi que le pécheur est mort, aveugle et sourd aux choses de Dieu et que son cœur est méchant et tortueux. Et ils affirment également que sa volonté n'est pas libre et qu'elle est asservie à sa nature pécheresse, de sorte qu'il ne va pas et ne peut même pas choisir le bien au lieu du mal dans le domaine spirituel. Ils enseignent également qu'en conséquence, il faut plus que l'assistance de l'Esprit pour amener un pécheur à Christ. Il faut la régénération par laquelle l'Esprit donne la vie au pécheur et lui donne une nouvelle nature. Et ils affirment aussi que la foi n'est pas la contribution de l'homme à son salut, mais elle est elle-même une partie du don de Dieu pour le salut. Elle est le don de Dieu au pécheur et non le don du pécheur à Dieu. Alors, c'est important de voir les différences parce que quand on dit que quelqu'un est arminien, bien souvent, il croit plus que ce qui est marqué dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite. Alors, j'ai fait la même chose pour l'autre point, l'élection inconditionnelle, le U, unconditional election en anglais, élection inconditionnelle en français. Mais eux, ils prétendent que ce n'est pas une élection inconditionnelle, que c'est une élection conditionnelle. Alors, on va regarder d'abord les points de l'arminianisme dans la colonne de gauche, l'élection conditionnelle, selon eux. Alors, le choix que Dieu a fait de certains individus avant la fondation du monde fut basé sur le fait qu'il avait prévu qu'il répondrait à son appel. Ils affirment aussi que Dieu a choisi seulement ceux qu'il savait qui croiraient eux-mêmes librement à l'Évangile. Conséquemment, l'élection a été déterminée ou conditionnée à la réponse de l'homme à l'Évangile. La foi que Dieu a prévue et sur laquelle Dieu a basé son choix n'a pas été donnée aux pécheurs par Dieu, selon eux. Elle ne fut pas créée par le pouvoir régénérateur du Saint-Esprit, mais a résulté seulement de la volonté de l'homme. Ils affirment aussi que la décision de croire fut laissée entièrement à l'homme et son élection n'en tient qu'à lui. Dieu a choisi ceux qu'il savait que de leur volonté propre choisiraient Christ. Conséquemment, le fait que le pécheur choisisse Christ et non que Dieu choisisse le pécheur constitue la cause ultime du salut. Alors vraiment, c'est une différence importante avec ce qu'on croit. Et le deuxième point, l'élection, le synode de Dort a pris la décision concernant l'élection inconditionnelle. Voici la position du synode de Dort. Le choix que Dieu fait de certains individus en vue de leur salut, avant la fondation du monde, n'est basé que sur la volonté souveraine de Dieu. Le choix de Dieu de certains pécheurs particuliers n'est pas basé sur aucune réponse prévue ou obéissance de leur part, telle que la foi ou la repentance. Au contraire, Dieu donne la foi et la repentance à chacun des individus qu'il a choisi. La foi et la repentance sont le résultat et non la cause du choix de Dieu. Conséquemment, l'élection n'est aucunement conditionnée ou déterminée par le fait que Dieu ait prévu une qualité vertueuse ou d'une action par l'homme. Alors, ceux que Dieu a souverainement élus, il les amène à une acceptation volontaire de Christ par la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Conséquemment, c'est Dieu qui choisit le pécheur et c'est lui et non l'homme qui constitue la cause ultime du salut. Alors, c'est important la différence. Il y en a un qui dit, c'est la foi qui fait que je peux être régénéré, alors que nous, on dit, c'est parce que Dieu t'a donné la foi que tu es régénéré, que tu peux comprendre qu'est-ce qui est. C'est vraiment deux points de vue complètement différents. On va regarder maintenant le point 3, le troisième point. Alors, dans le calvinisme, c'est la rédemption particulière ou limited atonement en anglais. Alors, eux prétendent que la rédemption est universelle. Alors, on va regarder le troisième point selon l'arminianisme. Alors, eux disent que l'œuvre rédemptrice de Christ a rendu possible le salut de tout, à tous les hommes, mais qu'elle n'a rendu certain le salut d'aucun. Même, selon eux, si Christ est mort pour tous les hommes et pour chaque homme en particulier, seulement ceux qui croiront en lui seront sauvés. Ils affirment également que sa mort rend Dieu capable de pardonner aux pécheurs à la condition qu'ils croient, mais n'a pas rendu certain que les péchés d'aucun soient ôtés. Et ils affirment aussi que l'œuvre rédemptrice de Christ ne devient effective que lorsque l'homme choisit de l'accepter. Alors, on va regarder maintenant la colonne de droite, qui est vraiment la position officielle du synode de Dort concernant le troisième point, qui est « limited atonement » ou « rédemption particulière ». Alors, l'œuvre rédemptrice de Christ a été prévue pour assurer le salut des élus et le rendre certain. C'est vraiment très différent. Sa mort et ses souffrances ont consisté à subir en substitution la punition due au péché de certains pécheurs spécifiques. En plus d'ôter les péchés de son peuple, l'œuvre rédemptrice de Christ a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour le salut des élus, incluant la foi qui les unit à lui. Le cadeau de la foi est infailliblement appliqué par l'Esprit Saint à tous ceux pour qui Christ est mort, garantissant ainsi leur salut. On va maintenant examiner le quatrième point de l'arminianisme. Alors, c'est vraiment le irresistible grace en anglais, ou l'appel efficace de l'esprit, ou grâce irrésistible. Mais on va regarder la position de l'arminianisme qui, pour eux, le point 4, c'est ils disent que le pécheur peut vraiment résister au Saint-Esprit. Alors, leur position dit « L'Esprit interpelle intérieurement tous ceux qui sont extérieurement appelés au moyen de la prédication de l'Évangile et il fait tout ce qu'il peut pour amener chaque pécheur au salut. Mais vu que l'homme est libre, ce dernier peut arriver à résister à l'appel de l'Esprit. » Ils disent aussi que l'Esprit ne peut régénérer le pécheur tant que celui-ci n'a pas cru. Autrement dit, la foi, qui est la contribution de l'homme, précède et rend possible la nouvelle naissance. Ainsi, le libre arbitre de l'homme limite l'esprit dans l'application de l'œuvre de salut de Christ. Le Saint-Esprit ne peut attirer à Christ que ceux qui le laissent agir en eux. Tant que le pécheur n'a pas répondu, l'Esprit ne peut donner la vie. La grâce de Dieu n'est donc pas invincible. Elle peut être et souvent est opposée et contrecarrée par l'homme. Donc ça, c'est leur position. La position du synode de Dort, c'est vraiment le irresistible grace ou l'appel efficace de l'Esprit ou grâce irrésistible. Donc en plus de l'appel général extérieur qui est fait à tous ceux qui entendent l'Évangile, le Saint-Esprit lance aux élus un appel intérieur spécial qui les amène inévitablement au salut. L'appel extérieur, lancé à tous sans exception, peut être et souvent est rejeté. Mais l'appel intérieur, qui lui n'est fait qu'aux élus, ne peut être rejeté. Il amène toujours à la conversion. Par cet appel spécial, l'Esprit attire irrésistiblement les pécheurs à Christ. Il n'est pas limité par la volonté de l'homme dans son œuvre d'application du salut, pas plus qu'il ne dépend de la coopération de l'homme pour atteindre son but. L'Esprit amène miséricordieusement le pécheur élu à coopérer, à se repentir, à venir librement et volontairement à Christ. La grâce de Dieu est donc invincible. Elle ne faillit jamais dans l'atteinte de son but, c'est-à-dire le salut de ceux à qui elle s'étend. Le cinquième point, alors c'est vraiment le pays de Tulip, la persévérance des saints. Eux, ils prétendent que, qu'un croyant peut déchoir de la grâce. Alors on va regarder la position de l'arminianisme dans la colonne de gauche. Ils disent... Ceux qui croient et qui sont véritablement sauvés peuvent perdre leur salut en échouant à conserver leur foi. Les Arméniens ne s'entendent pas tous sur ce point. Quelques-uns ont soutenu la sécurité éternelle des croyants en Christ une fois qu'il est régénéré. Le pécheur ne peut jamais être perdu. Alors ça, c'est pas universel. Les Arméniens, quelques-uns croient que le salut se perd, d'autres croient que le salut se perd pas. Mais en tout cas, de voir leur raisonnement, ça c'est une autre affaire, là. Mais on va regarder maintenant la position qui a été prise par le synode de Dort, qui est vraiment la persévérance des saints. Alors, le synode de Dort affirme que tous ceux qui furent choisis par Dieu, rachetés par Christ, et auxquels l'Esprit a donné la foi, sont sauvés éternellement. Ils sont gardés dans la foi par la puissance du Dieu Tout-Puissant et, par conséquent, persévèrent jusqu'à la fin. Alors, on va regarder les applications. Le premier, on pourrait dire, nous sommes un reste seulement. Les doctrines de la grâce souveraine de Dieu sont humiliantes, offensantes, haïes et abandonnées par l'homme irrégénéré. Nous devons malheureusement constater que la majorité des « croyants modernes » entre guillemets sont arméniens. Deuxième application, la raison humaine a sa place dans l'interprétation des Saintes Écritures. Cependant, elle se doit d'être subordonnée aux déclarations de la Bible. Alors, bien entendu, on a vu tout à l'heure leurs deux principes de départ. Tu places la raison au-dessus des Écritures, donc à quelque part, tu vas t'égarer. Troisième application, sachons que l'arminianisme versus le calvinisme n'est pas seulement une question d'emphase ou de différence de point de vue sans conséquence, mais bien de contenu. Soyons vigilants pour ne pas adopter, enseigner et diffuser un évangile dilué et tronqué. Quatrième application, pendant plus de quatre siècles, de la Réforme à aujourd'hui, les enfants de Dieu et les églises locales ont déclaré hérétique l'enseignement de l'arminianisme, alors qu'il semble qu'on s'en accommode de plus en plus de nos jours. Demandons au Seigneur de nous éclairer et de demeurer fidèles jusqu'à son retour. Et la cinquième application, prions, étudions, enseignons, séparons-nous et implorons la grâce du Seigneur pour garder le bon dépôt de la saine doctrine. Que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit loué, béni et adoré éternellement.